Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
À ceux qui pressaient l'État d'agir contre les violences policières et le racisme systémique des forces de l'ordre, à la suite notamment du tabassage de Michel Zecler, à ceux qui exigeaient des mesures immédiates pour contenir le déchaînement des policiers lors des manifestations, les coups, les croche-pattes, les matraquages, les plaquages ventraux, à ceux qui interpellent le gouvernement pour comprendre comment une policière a pu pousser une jeune femme contre un mur si violemment qu'elle en a fait une fausse couche, à cela, enfin, Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur proposent une réponse. Lancé lundi, ce 25 janvier, un Beauvau de la sécurité réunira tous les 15 jours des experts français et internationaux, ainsi que des maires, des parlementaires, mais aussi des policiers bien sûr, des citoyens et des associations. Et pourquoi faire, me demanderez-vous ? Eh bien pour parler, débattre, et même grand débattre. Puisque la méthode est clairement inspirée du grand débat national mis en place pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Rappelez-vous, les cahiers de doléances, les débats locaux, le site internet dédié où vous pouviez envoyer en ligne vos problèmes et vos questions, et puis les débats nationaux et les conférences citoyennes régionales, toute cette salive. D'ailleurs, depuis, c'est simple, tous les problèmes des Gilets jaunes ont disparu et ils sont rentrés chez eux. À partir de la semaine prochaine, il y aura donc aussi, je cite, de grands débats avec les policiers et les gendarmes qui pourront remplir des cahiers de doléances ainsi que des débats citoyens avec des jeunes, des élus, des agriculteurs, etc. Les thèmes abordés sont déjà listés, la formation, l'encadrement, les moyens humains et matériels, la captation de vidéos, la réforme de l'IGPN et le lien entre les forces de l'ordre et la population. Bizarrement, je ne vois pas ni racisme ni violence, ça doit être un oubli, on en parlera. On en débattra, autant dire. Tout de suite donc, pour se préparer à parler, à écouter, à échanger, à écrire ses doléances et à ce qu'il ne s'ensuive, rien ou presque. Voici trois histoires, elles sont racontées par des policiers eux-mêmes à Clément Baudet.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Rezgi Rawaji Aykel, j'ai 38 ans et je suis brigadier de police au sein de la FMUD 67. Et je suis affecté au commissariat central de Strasbourg. La FMUD, c'est la formation motocycliste urbaine départementale. Nous sommes motards de la police. Notre mission prioritaire, c'est les escortes de personnalités et des véhicules d'urgence, SAMU, pompiers. Principalement, notre mission, c'est la lutte contre l'insécurité routière et d'encadrer les manifestations et de faire également de la police secours si besoin. Porter assistance aux gens, tendre la main à nos concitoyens et essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Et faire de la moto son métier, c'est génial. C'est une vocation, hein. Depuis tout petit, je voulais toujours intégrer les compagnies moto. J'ai travaillé pour et j'ai réussi à réaliser mon rêve. J'ai commencé adjoint de sécurité en 2004 à Toulouse. Et par la suite, j'ai intégré l'école de police en tant qu'élève gardien de la paix et affecté en région parisienne. J'ai fait 3 départements distincts, ça s'est toujours bien passé. J'ai rencontré mon épouse qui était collègue avec moi en région parisienne. C'était relativement compliqué de muter dans le sud, donc j'ai pris la décision, comme un cadeau, de mettre Strasbourg pour lui faire plaisir, pour entrer dans sa région natale. J'étais tout content d'arriver ici, de découvrir des nouvelles choses. Nous avons une première semaine de présentation au sein de la direction. Immédiatement, ça a été des petites moqueries sur mon nom de famille, tout ça. Au début, je l'ai pris second degré, en me disant, bon, rien de méchant. Et régulièrement, bah, on a contrôlé deux bougnoules, là, on va les gratter. Et encore des bougnoules, ils ont fait ci. Je dirais calmement sur les origines, sur la religion, sur le mot bico, négro, voilà, c'était utilisé ouvertement. On fait même pas attention aux collègues qu'il y a autour. Et ça, pour moi, ça m'a réellement choqué, parce qu'à la limite, on peut en faire une blague une fois ou deux, mais je pars du principe où on est représentant de l'État. On peut faire des petites blagues entre collègues, mais au bout d'un moment, quand on voit que ça blesse quelqu'un d'autre, on arrête là, quoi. Et en fait, moi, j'encaissais, j'en parlais à certains collègues que je connaissais et à ma hiérarchie. Donc, je pensais que ça allait se régler rapidement. Mais en fait, non. Tout le monde me disait que c'était des blagounettes. Et mon chef direct m'avait expliqué que pour lui, le problème ne venait pas du racisme, mais plus de la communication entre collègues. Et c'est quand on arrive dans le vestiaire, on entend des genres de blagues dans le bureau, on patrouille pendant la pause café. Enfin, il y a toujours un petit truc qui vous rappelle que vous n'êtes pas comme eux et que, en gros, vous êtes un collègue imposé par l'administration et non réellement un collègue à part entière. Après, je veux pas dire que tous les collègues utilisent ces mots-là, mais malheureusement, ouais, ça se dit. Et c'est voilà. Ce jour-là, je suis arrivé au travail comme d'habitude. Hein, je me suis rendu au bureau pour saluer mes collègues. Et j'entends encore, toujours pareil, des histoires racistes, dites ouvertement dans le bureau. Donc là, j'ai plus supporté, je suis sorti pour pouvoir prendre l'air. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu mes genoux et mes mains qui commençaient à trembler. Je tombais et j'étais voir mon chef pour lui expliquer que je pouvais pas rester, que je n'étais pas bien. Par la suite, je me suis rendu chez mon médecin qui m'a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif. Et il m'a mis immédiatement en arrêt. Deux mois après, j'ai fait un rapport à la hiérarchie pour les aviser des faits. Et donc, en faisant une demande à caractère dérogatoire pour une mutation, j'ai suivi les règles de la hiérarchie. Quand vous faites un rapport, vous donnez le descriptif. Et dans ce rapport-là, j'ai détaillé à l'attention de ma directrice les faits. Et j'ai même expliqué que si elle souhaitait me recevoir, j'étais disponible à venir lui démontrer la véracité des faits. Il y a une enquête interne par l'IGPN local qui a été ouverte et clôturée au bout de 2 à 3 mois par la suite en disant qu'il n'y avait aucun élément qui prouvait que ma dépression pouvait venir du fait que les collègues se sont mal comportés ou ils ont eu des propos racistes. J'étais outré. Ce moment-là, j'ai compris que je n'aurais aucun soutien ni d'aide de la part de ma hiérarchie. Un mois et demi après que j'ai fait ce rapport, mon épouse découvre que son arme a été maquillée. Il faut savoir que les anciennes cartouches, elles pénétraient le corps et elles ressortaient. Il y avait un risque que ça pouvait blesser quelqu'un d'autre par la suite. Et cela, en fait, les nouvelles cartouches, elles rentrent et elles s'ouvrent pour éviter de toucher une tierce personne. Les anciennes cartouches, on les garde au centre de tir et les nouvelles cartouches, on les utilise sur la voie publique. Et ce jour-là, mon épouse, en fait, elle prend son arme et son chargeur dans le coffre de son chef et découvre qu'en fait, une cartouche sur deux a été changée. C'était un message à moi directement en disant qu'on est capable d'aller plus loin, quoi. Au final, si on m'avait demandé de prouver ce que je disais, je pense que ça aurait été réglé rapidement, mais malheureusement, j'ai vu et compris que mon dossier n'intéressait personne et que ça ne servait à rien. J'avais plus aucun moyen de me défendre, donc j'ai prévenu la plus haute autorité administrative. J'ai porté plainte contre X pour racisme, discrimination, harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui. Je me suis rendu en compagnie de mon épouse et mon avocate au tribunal de Strasbourg pour déposer plainte directement au parquet. Parce que si je l'avais fait au commissariat ou ailleurs, ça aurait pas abouti. Je suis toujours en dépression, donc première année, j'ai perdu 15 kilos. Ça a affecté mon épouse, mes enfants. Et aujourd'hui, en fait, on m'a pas laissé le choix. Ma psychiatre a demandé une reprise à mi-temps thérapeutique qui a été refusée. Et donc j'ai repris à 100%. Au final, je suis toujours sous médicament, je suis toujours suivi par ma psychiatre et également tous les 3 mois, je dois voir le médecin statutaire de l'administration. J'ai fait 2 demandes de mutation, les 2 ont été refusées et actuellement, avec mon épouse, on est en train de refaire une 3e. Mais là, le but, c'est de protéger ma famille, de me reconstruire. Et ça, c'est pas possible sans avoir mes parents, ma sœur et toute ma famille autour de moi pour m'aider à avancer, quoi. Et je ne suis pas le seul à le dire, en fait. Il y a d'autres collègues qui me soutiennent, mais qui ne peuvent pas parler, parce que s'ils parlent, la foudre va leur tomber dessus. Il faut être réaliste, c'est l'omerta. Donc, les peu de collègues qui ont parlé l'ont payé cher. Il y en a, j'en connais deux qui ont démissionné parce qu'on les a poussés à bout et d'autres qui continuent à le payer. Au lieu d'être intègre et juste et d'éclaircir les affaires et de sanctionner les personnes concernées et d'aider réellement les victimes, c'est l'inverse qui se passe. Ces personnes-là continuent à vivre normalement. Rien n'a bougé. Enfin, si, une seule chose, on m'a demandé si je voulais un autre service. Je fais un rapport de refus parce que si je change de service, en fait, je perds ma spécialité moto. Il faut savoir que dans la police, globalement, notre spécialité, elle est importante. Les gens qui intègrent les motos, c'est pas pour partir au bout de 2 ans ou 3 ans. On gagne les bottes, généralement, c'est pour la carrière. Hein. Moi, je veux pas perdre mes bottes, non. Moi, j'ai travaillé dur pour les avoir, comme tous les collègues qui ont réussi cette spécialité. Tout le monde a cravaché pour avoir ça, quoi. Mon épouse et moi-même, nous arrivons à bout et nous n'avons aucun soutien de notre hiérarchie. Personne n'a pris le temps, n'a pris l'initiative de me convoquer pour me dire voilà, on va essayer de trouver une solution. Au contraire, c'est on le laisse dans son trou et c'est une sanction déguisée. Aujourd'hui, même mes collègues avec qui je travaillais, où ça s'est très bien passé du mois de mai à septembre, m'ont tourné le dos. Tous les soirs, j'arrive chez moi, je vois mes enfants, un petit câlin de mes enfants. C'est ce qui me fait tenir pour me rebooster pour le lendemain. J'essaie de bien faire mon travail. Preuve en est, c'est que mon supérieur hiérarchique est content de mon travail actuellement. Et récemment, il y a à peu près 3 semaines, j'ai été également décoré de la médaille de sécurité intérieure pour avoir été un des premiers intervenants sur l'attentat de Strasbourg en 2018. Ils savent très bien qu'au-dessus, personne ne fera rien. Donc, on ne les mettra pas en cause parce qu'il n'y a pas beaucoup de motocyclistes, beaucoup de collègues qui ont cette spécialité. Donc, on fait avec et on essaye de tourner la tête ou de faire autre chose pour éviter d'aller au contact de ces personnes-là. Tout ce que j'espère, c'est de pouvoir partir rapidement d'ici. Et cette parenthèse de Strasbourg de septembre 2018 au jour de mon départ, l'effacer carrément de ma tête. Passer à autre chose parce que c'est plus possible de vivre comme ça, dans des conditions comme ça. Venir au travail en étant stressé, en ayant la boule au ventre, en étant angoissé, et je garde espoir, mais après, au bout d'un moment, l'espoir disparaît. Donc, quand j'étais dans d'autres commissariats, ça s'est très bien passé avec d'autres collègues de plusieurs origines différentes, plusieurs religions, originaires de plusieurs régions de France. Mais malheureusement, c'est pas l'institution le problème. L'institution et certaines personnes qui composent cette institution et que il faut sanctionner. À force qu'il y ait des collègues qui parlent ouvertement et qui disent les choses, ça va peut-être bouger.
Donc Alexandre Langlois, 38 ans, et j'habite à côté d'un petit village qui s'appelle Rochefort-en-Terre, et sinon, je travaille en région parisienne. Les premiers souvenirs, c'était plutôt des séries télé, des dessins animés qu'on avait sur les écrans quand on était plus petit. Et je garde un souvenir où on jouait souvent aux policiers, aux voleurs dans les cours d'école. Donc ça, c'est les premiers souvenirs que j'ai du métier. Pendant mes études, je travaillais la nuit en tant qu'agent de sécurité et je cherchais une vocation pour défendre l'intérêt général. Et j'étais avec un autre collègue qui, lui, est rentré dans la police un an avant. Et c'est en discutant avec lui qu'on a vu qu'il m'a dit « oui, c'est pas mal ». Et j'ai dit « oui, effectivement, ça permet de servir l'intérêt général, t'as raison, et je veux aussi passer le concours ». J'étais le premier policier de la famille et depuis, mon petit frère qui est rentré dans la police. Je suis affecté donc en 2010 dans les Yvelines. Du coup, j'ai commencé dans le renseignement. Ma mission principale, c'était de m'occuper du secteur économique et social. Le gros du travail, c'était d'être en contact avec les associations, les syndicalistes, les chefs d'entreprise et les élus en tant que maire, parce qu'ils sont également chefs de service, pour que si un jour il y a des manifestations, que le jour J, on connaisse tous les acteurs de la pièce et de se dire comment on organise pour que ça se passe bien pour tout le monde. La confiance, ça se crée au fur et à mesure des années. Et donc, mon travail, c'était de garder ce lien, de tisser ce lien, et pour que si un jour il se passe quelque chose, on ait les bons contacts. Et ça s'est bien passé. Puis après, j'ai eu posé une question un jour. Je me suis dit, on est quand même dans un service de renseignement au 21e siècle. Et du coup, on n'a pas de téléphone portable. Et c'est quand même gênant pour nos contacts. Soit on donne un numéro de fixe, soit notre numéro personnel. Donc j'ai dit, au bout d'un moment, soit vous nous payez une partie de notre forfait, soit vous nous donnez un numéro de téléphone, ce qui sera plus adéquat. Et la réponse qu'on m'a dit, c'est non, vous n'êtes qu'une ligne budgétaire. Et la ligne budgétaire des cartes de visite et des téléphones portables, c'est pour les commissaires, c'est des frais de représentation, vous n'en avez pas le droit. Sur les manifestations, je croisais des gens de la CFDT, de la CGT, enfin voilà. Et en discutant, ils m'ont dit, tiens, on va t'appeler secrétaire général de la CGT Police. Bon, écoutez, appelez, je verrai bien au point où j'en suis. Moi, je voudrais mon téléphone et mes cartes de visite. Je voulais pas faire de politique, et dans la famille où j'étais, on me disait, la CGT, c'est le parti communiste, etc. Donc, je me dis, bon, je vais voir, j'espère que c'est que du syndicalisme. Et j'ai bien fait, parce que on a obtenu les cartes de visite, on a obtenu les téléphones. C'est comme ça que je suis rentré dans le syndicalisme. La CGT, c'est pas courant. D'ailleurs, moi, je savais pas qu'il y avait une CGT police avant que je les rencontre. Des fois, déjà à l'époque, quand je disais que j'étais policier, et des fois, il y a des gens qui disaient « Ah, c'est bien », d'autres qui me disaient « Ah, c'est nul ». Et à l'inversement, je disais « Je suis aussi syndicaliste à la CGT ». Là, du coup, j'avais les réactions souvent inverses. L'évolution de la police, je l'ai vécu en partie sur ce que j'ai vécu dans mon service. Suite aux attentats du 13 novembre, il y a eu un remue-ménage de communication de la part du ministre. C'est-à-dire qu'on devait faire des perquisitions dans tous les sens, des perquisitions administratives. Donc mon service était en première ligne parce qu'on était dans le renseignement. Sauf que le ministre avait demandé de la quantité. Toutes les semaines, je veux tant de perquisitions à faire. Et on s'est retrouvé avec des commissariats ou d'autres des services judiciaires qui ont profité de ces perquisitions pour boucler des affaires. Je me suis dit, mais on détourne nos missions, on détourne nos moyens, mais moi j'ai pas signé pour ça. La même chose également avec l'état d'urgence qui avait été voté en 2015. Ça a été vendu pour lutter contre le terrorisme. On a assigné à résidence des militants écologiques pour pas qu'ils viennent perturber la COP21 qui se déroulait en France. C'est toutes ces dérives où on fait des lois, mais qui sont appliquées pour justement un contrôle politique ou social de la population. Ça, je l'ai vécu de plein fouet et je me suis dit, moi je me reconnais pas, je veux pas faire du renseignement pour ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les notes de renseignement qu'on fait servent à mettre des snipers, grosso modo, pour faire un baltrap à coup de LBD. J'ai mal vécu le détournement de sous ces services. Là, on est arrivé au moment où je pense qu'on ne peut plus réformer la police de l'intérieur, parce que tout a été verrouillé, IGPN, le nouveau code de déontologie. Il restait une dernière chose, c'est les images et les enregistrements pour prouver certaines dérives au sein de la police nationale. Et ça a été interdit. C'est ce qu'ils voulaient faire avec leur article 24. Et là, je me suis dit, en fait, les derniers moyens de preuve sont finis, parce que même en interne dans la police nationale, il y a des histoires de racisme qu'on peut sortir que grâce à des enregistrements et des vidéos et grâce à l'appui de la presse. Je me suis dit, il faut que je parte. Et quand je parte, je dis, c'est bien réformer la police nationale qui pose problème, parce qu'il y a plein de collègues qui sont magnifiques à l'intérieur, mais qui doivent aujourd'hui malheureusement faire un choix entre leur conscience professionnelle et la peur de leur hiérarchie. Quand j'ai vu la vidéo de Michel Zecler, je me suis dit, là, on a passé un cap, on tabasse quelqu'un en allant chez lui. Et surtout, on fait un fou en écriture. Des collègues ont fait une cagnotte pour les gens qui ont tabassé Michel Zecler, mais j'ai trouvé ça honteux. Et encore plus honteux, c'est que, par exemple, à l'inverse, on a un collègue qui a failli se faire lyncher samedi dernier à Paris, il n'y a pas eu de cagnotte pour lui. Je ne veux plus être assimilé à ça, je veux garder ma liberté de parole, je veux pouvoir trouver d'autres moyens d'améliorer la police. Donc, le 27 novembre, j'ai envoyé une lettre de démission. C'était une concordance de plusieurs événements. C'est la vidéo de Michel Zecler associée à la loi sécurité globale et aux réponses politiques de M. Darmanin et M. Macron. Les trois ont fait, j'ai dit là, mais il n'y a plus d'espoir en fait. J'aurais bien voulu qu'on fasse le tri, qu'on laisse les bons policiers, qu'on enlève les mauvais. Et je suis parti pour les mêmes raisons qui m'ont fait rentrer dans la police. Défendre les libertés individuelles et l'intérêt général. Je veux partir le plus vite possible. Donc pour moi, je ne sais pas ce que je veux faire. Je sais juste dans quelle direction je voudrais continuer d'être utile, c'est de réformer cette police nationale. Je pense que je vais lancer un combat sur un IGPN citoyen et indépendant, parce que ce serait le premier domino pour changer les choses. Et après, il faudra sans doute que je trouve aussi un travail alimentaire, et là, je ne sais pas lequel non plus. Moi, je me considère comme un lanceur d'alerte sur des choses graves et sur quelque chose de nécessaire pour tout le monde. À la limite, la question, c'est pas est-ce que vous êtes pour ou contre la police, c'est quelle police vous voulez. Et ça, personne ne pose la question. Il y a peu de voix discordantes dans la police, car tous les policiers qui essayent de parler, de dénoncer des dysfonctionnements sont harcelés au travail, reçoivent des pressions. Des pressions des fois très bêtes, on dit si jamais tu obéis pas à l'ordre, des vacances je vais les décaler. Donc que des petites pressions mesquines. Ceux qui ne comprennent pas, après c'est sanctions disciplinaires. Si vous mettez sur la place publique ou vous critiquez l'institution, c'est vous qui portez atteinte au crédit au nom de la police nationale. Je dis mais en fait, et les policiers disent oui mais en fait c'est parce qu'il y a des manquements graves. Ah mais si on ne le laissait pas, on ne porte pas atteinte à l'image. Donc nous, on mèche sous le tapis. Donc les policiers sont prisonniers de leur propre institution qui les empêche de parler, et c'est pas pour rien, hein. Je rappelle qu'on a le plus gros taux de suicide professionnel en France. J'espère un sursaut au sein de l'institution, j'espère un électrochoc au sein de l'institution, et puis je pense aussi qu'il y a la pression médiatique populaire, parce que maintenant il y a tout le monde qui voit qu'il y a un problème. En tout cas, moi j'espère que M. Macron va être obligé, à défaut par conviction, mais en tous les cas sous la pression de la population française et la pression internationale, de bouger.
Je m'appelle Saba, je suis fonctionnaire de police, j'ai 40 ans, j'exerce ce métier depuis 22 ans en Ile-de-France, plus particulièrement les Hauts-de-Seine. Alors je suis rentrée dans la police en 1998 avec une copine d'enfance. On a grandi dans une cité en région parisienne, une cité connue pour sa délinquance. Nous sommes rentrées toutes les deux par vocation, on aimait beaucoup ce métier. Ma famille est très fière. Mes amis aussi sont très heureux pour moi. Alors moi, j'ai commencé en tant qu'adjoint de sécurité, police de proximité. Ensuite, j'ai intégré l'école de police. Et en sortie d'école, j'ai été à Paris, en police secours. Ensuite, j'ai intégré une brigade anticriminalité, où j'ai fait 4 ans. C'était beaucoup de filatures, des interpellations, des patrouilles de nuit comme de jour. Et ensuite, j'ai intégré une brigade territoriale de contact où j'ai été chef d'unité. Ces dernières années, il y a eu pas mal de manifestations dans les lycées, des lycéens. Ensuite, il y a eu les manifestations des Gilets jaunes aussi. Nous sommes rendus à plusieurs reprises sur ces manifestations sans habilitation. Nous ne sommes pas habilités au maintien de l'ordre. Donc, on s'est retrouvés à faire du maintien de l'ordre comme on pouvait. On était dirigé par un commandant, heureusement que lui avait fait à plusieurs années du maintien de l'ordre, donc nous montrer ce qu'il fallait faire et ne pas faire surtout. Parce que quand on n'a jamais fait de maintien de l'ordre, on se fait caillasser, on nous jette des œufs, de la farine, des tirs de mortier, etc. C'est difficile hein, de savoir ce qu'il faut exactement faire. On en a parlé, pas d'effectif, faut y aller, on y va quoi. Mais on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. Alors pour faire du maintien de l'ordre, il faut être formé quand même. C'est comme les CRS, hein. Les CRS sont formés pour. Nous, on est allés sans formation, sans rien. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'il faut charger, quand est-ce qu'il faut reculer, quand est-ce qu'il faut interpeller. Et voilà. Sur les manifestations, j'étais en colère parce que j'avais peur que ça dérape, voilà, que ce soit pour nous ou pour les lycéens ou pour les manifestants en face. Même les lycéens étaient vraiment violents. Sur le coup, on était tous en colère, quoi. On se disait, non, mais là, on nous envoie comme ça au charbon, alors que pour peu qu'on faute, tout retombera sur nous, quoi. On n'était pas prêts du tout. Pas prêts du tout. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de blessés des deux côtés. Mais par contre, quand on voit les manifestations sur Paris, notamment les gilets jaunes, etc., c'est de plus en plus violent. C'est carrément, on a l'impression que on cherche à tuer, quoi. C'est très, très difficile, hein, à gérer. Et il faut faire avec la force nécessaire, quoi. Si on est attaqué, il faut se protéger. Et pour ça, on doit utiliser la force nécessaire. Quand c'est violent comme ça, c'est violent des deux côtés, après. Un jour, j'ai été confrontée dans une manifestation de lycéens où on a été pris à partie par des lycéens. Il y avait du gaz lacrymogène partout. Je savais pas du tout où j'étais. Là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur parce qu'on sait pas d'où les coups vont venir, qu'est-ce qui va nous arriver à ce moment-là. Franchement, à ce moment-là, j'ai eu peur. Pour bien faire notre travail, déjà, avoir des véhicules qui fonctionnent bien, avoir du matériel comme des caméras piétons qui fonctionnent toute une vacation, pas 5 minutes. Avoir un uniforme qui peut nous protéger contre le feu, contre pas mal de choses. On se retrouvait avec des boucliers rayés, on n'y voit rien. Tout ce qui est tenue vestimentaire, on avait une tenue de service général, quoi, on va dire, c'est pas une tenue pour le maintien de l'ordre. Les locaux aussi, c'est scandaleux. Il y a des endroits insalubres et on n'est pas assez formés. On n'a pas assez d'effectifs, on n'est pas assez encadré, tout ça, on ne l'a pas. Donc, c'est très difficile pour nous d'exercer sereinement. J'ai grandi dans une ville où j'y habite toujours. Tout le monde est au courant de mon métier, mais de moi-même, je ne n'irai pas le dire. Pour ma sécurité, celle de ma famille. On ne peut pas crier haut et fort cette fierté de porter l'uniforme, malheureusement. Par peur de représailles, on ne peut pas le dire. On a des collègues qui ont été tués, menacés. Personnellement, je n'ai pas subi de menaces. Par contre, j'ai pas mal de collègues qui en ont subi. Je n'ai jamais pensé à quitter la police malgré tout ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, ce métier est noble, c'est un beau métier, mais malheureusement, aujourd'hui, vu l'évolution, on me proposerait ce métier, je dirais non.
C'était Malaise dans la police, un reportage de Clément Baudet réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Aïkal, à Alexandra Sabat, à Kaoutaré Choucourt et à Michel Touris, l'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Mélissa Foust. Et notre stagiaire, c'est François Bréus.